Vous écoutez RTL. La curiosité est un vilain défaut.
Au moins 313 heures chaque année. Valeur plusieurs millions d'euros. De l'or, de l'argent, de toutes les époques.
RTL.
Gaulois, Moyen-Âge, Louis XIV, Napoléon. Mieux que le loto, la chasse au trésor, l'ultime quête. Cette femme a trouvé un trésor gaulois par hasard au bord d'un chemin au Mans. Immédiatement, les autorités lui ont tout pris.
Les monnaies ont toutes été réquisitionnées.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Chaussez vos lunettes de soleil, on va vous éblouir avec des histoires de trésors incroyables. Des milliers de pièces d'or sorties d'un mur, une statue antique tirée des eaux de l'Hérault, une énorme pépite d'or trouvée dans un bois. Bonjour Hubert Delobette.
Bonjour. Bonjour.
Soyez le bienvenu dans notre curiosité de l'été. Vous êtes éditeur et auteur et vous publiez Histoire des plus incroyables trésors français. C'est aux éditions Le Papillon Rouge. Et avec vous, on remonte jusqu'en 1989.
1889.
Qu'est-ce que j'ai dit ? Ouais. Ah oui, 1889. Ouais, ça, c'est encore plus loin. L'année d'une découverte qui a changé la vie d'un berger ardéchois. Qui est-il et que s'est-il passé ?
Alors, effectivement, on se trouve en juillet 1889 dans un petit village du sud de l'Ardèche qui s'appelle Gravières. Et ce jour-là, il y a un berger, donc pauvre, hein, qui ramasse du bois donc à côté de son village, tout en vaquant à son travail. Il aperçoit au loin, près d'un bosquet, une pierre avec un éclat particulier. Il s'approche, il la prend, il la nettoie. Il a les yeux tout d'un coup écarquillés, il est berlué, il frotte un peu plus.
D'où les lunettes de soleil que Sidonie nous conseillait de prendre, c'est ça ?
Voilà,
qui n'existaient peut-être pas en 1889.
Là, elles vont avoir une utilité.
Et puis on est en été, en juillet, donc. Ouais. Et puis en 1889, évidemment, on avait déjà des lunettes de soleil.
Ça brille particulièrement, cette pierre.
Oui, 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 elle brille énormément et il se rend compte qu'il vient de tomber sur une pépite.
Mais elle est grosse comment ?
Ce qu'il ne sait pas encore, c'est qu'il vient de tomber sur la plus grosse pépite d'Europe. Elle est grosse, elle fait 10 cm de long, 5 cm de large et plusieurs millimètres d'épaisseur. Et elle pèse un demi-kilo. Donc il vient de trouver, ce brave berger, un demi-kilo d'or pur.
C'est incroyable. J'imagine que cette découverte va créer des tensions, va peut-être susciter des jalousies.
Oui, oui. Alors, ce qui est assez incroyable dans cette histoire, c'est qu'en fait, son beau-frère va revendiquer la paternité aussi de la découverte de cette pépite.
Parce qu'il était là ?
Oui, alors quelques jours auparavant, il gardait ses chèvres et il avait attrapé une pierre. Alors, il avait senti bizarrement que c'était un caillou qui avait un poids particulier. Enfin, il avait une sensation étrange. Enfin, il s'était servi de cette pierre pour chasser une chèvre qui s'écartait du troupeau. Et il pense que donc il avait attrapé la pépite et en tombant, cette pépite donc, s'est un peu effritée et avait donc dégagé une partie de l'or qu'ensuite son beau-frère a distingué au loin. Donc il va y avoir un combat juridique qui va n'en plus finir entre les deux beaux-frères. Et bon, ils vont finir par se partager le fruit de cette
énorme pépite. Ils vont la couper en deux,
non ? Non, on la coupe en deux.
Attendez, d'où il venait cet or ? C'est une terre...
Oui, c'est une terre aurifère, au sud de l'Ardèche. Donc, on avait déjà trouvé, dans les années précédentes, trois pépites, alors des petites, 60, 50, 100 grammes. Et là, évidemment, ça va être le jackpot.
Donc, vous nous dites que c'est la plus grosse pépite jamais trouvée pour l'époque ou depuis, on n'a jamais trouvé
aussi
gros ? Non,
depuis, elle est toujours
ça
la plus grosse
record.
Pépite d'or trouvée en Europe.
Qu'est-ce qu'elle est devenue ?
Alors, cette pépite a eu un destin assez marrant. D'abord, le bijoutier du coin a voulu l'acheter de la ville qui s'appelle Lévin, en Ardèche, qui est bien connue par les gens du coin. Il en voulait l'acheter 12 000 francs. On était en francs à l'époque, évidemment, en ancien franc. Ces paysans Madré n'ont pas été d'accord. Ensuite, donc, ça s'est su au niveau national, il y a eu des articles, la presse s'y est mis. Et le Muséum d'histoire naturelle de Paris a voulu acheter cette pépite. Alors, le directeur à l'époque, qui s'appelait Alfred Descloiseaux, a dit mais écoutez, c'est une valeur patrimoniale aussi importante qu'un tableau de maître, qu'une sculpture antique. Donc, il faut que l'État achète cette pépite. Et en fait, l'État n'a pas mis assez d'argent. Et c'est un riche collectionneur qui s'appelait Georges de la Bouglise, ingénieur des mines, qui a acheté cette pépite pour un montant qui a été tenu secret.
Hubert Delobette, des histoires comme ça, vous en racontez plein dans votre livre. Il y a une autre découverte étonnante qui n'a pas eu lieu dans un bois, mais dans un dépôt-vente. C'était le 12 octobre 1998 à La Roque dans l'Hérault. Qu'est-ce qui est arrivé à trois quinquagénaires ?
Alors là, on monte de gamme par rapport à l'histoire précédente, c'est-à-dire que là, on a le registre de plusieurs centaines de millions d'euros.
Avec des chineurs amateurs, c'est ça ?
Des chineurs amateurs, ils sont des gens simples. Il y a un qui est un gérant forestier, un éducateur spécialisé, un ébéniste. Alors, vous verrez que l'ébéniste, voilà, ça a eu une influence sur cette découverte. Ils sont passionnés donc de Chine, ils font les vide-greniers, les dépôts-ventes de la région depuis quelques années, avec chacun sa spécialité. Et un jour donc, d'octobre 1998, il rentre dans un dépôt-vente d'un petit village qui s'appelle La Roque, donc près de Ganges dans l'Hérault. Et là, il y a un des trois larrons qui voit une petite toile accrochée en haut. Donc il se lève, il décroche cette toile de sa simèse. Et puis, bon, ils ont quand même l'impression que c'est une toile qui aurait une certaine valeur. Mais surtout, l'ébéniste remarque que le cadre a une facture particulière.
Voilà. C'est ce qui leur met la puce à l'oreille, en quelque sorte.
Plutôt le cadre.
Ce cadre, en fait, il est en bois de peuplier avec des découpes particulières qui sont exactement les mêmes découpes que le tableau de la Joconde.
Incroyable.
Là, ça commence à faire tilt.
Mais la toile elle-même, elle est plutôt, elle ressemble à quoi?
Elle
pas grand-chose. Elle est crasseuse, c'est ça?
Elle est crasseuse, elle est très sale. On distingue légèrement une vierge à l'enfant avec donc une madone qui est en train de donner le sein à un nourrisson. Il y a un deuxième enfant qui regarde la scène. Mais bon, il n'y a rien de particulier. C'est une sale toile qu'ils achètent pour 1 500 francs.
Et la suite, on va la raconter dans quelques minutes. Allez, sur RTL, restez avec nous. Évidemment, vous avez entendu la Joconde. On part sur la piste de Léonard de Vinci.
Bel été, les curieux, sur RTL. Septembre 2016, juin 2017, saison record pour RTL. Vous n'avez jamais été aussi nombreux à nous écouter depuis 15 ans.
Merci à vous tous.
Merci, merci.
Merci beaucoup.
Merci à tous.
RTL, c'est chaque jour près de 6 600 000 auditeurs. Merci de votre confiance, merci de votre fidélité. Et bel été sur votre radio préférée. RTL, première radio de France. Pour satisfaire votre curiosité, Sidonie Bonnec, Thomas Hugues sur RTL.
Vous avez choisi RTL ce matin et vous avez bien raison. Peut-être étiez-vous attiré par l'odeur d'un trésor. On est parti à la chasse au trésor ce matin grâce à notre invité Hubert Delobette qui publie Histoire des plus incroyables trésors français aux éditions Le Papillon Rouge. Alors il y a quelques minutes là, juste avant la pause, on était avec ces trois chineurs dans la région de l'Hérault. On les imagine, ils sont à un dépôt-vente. On est en octobre 98. Il y en a un qui est ébéniste et il repère une toile. Le bois est travaillé d'une façon un peu particulière. Ça lui rappelle quoi déjà? Dites-le-nous.
Ça lui rappelle la Joconde, parce que le tableau, le cadre a exactement la même épaisseur. Les coupures du bois de peuplier sont exactement les mêmes. C'est un passionné de peinture. Et il se dit, il y a quand même quelque chose de bizarre.
Donc la toile, elle est crasseuse, elle ne représente pas grand-chose, mais il l'achète quand même.
Il l'achète quand même, il achète 1500 francs, il revient chez lui, il va la montrer à sa voisine, laquelle est professeure d'histoire de l'art, et qui lance tout d'un coup cette phrase qui va résonner comme un coup de gong, c'est le pavé de la mare, et lui dit, mais dis donc, on dirait du Léonard de Vinci. Voilà.
Donc là, ça fait la deuxième fois qu'ils ont l'impression d'avoir un Léonard de Vinci. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ont cette toile entre les mains. Prochaine étape pour ces trois quinquagénaires chineurs amateurs.
Ça va être la passion de 20 ans, parce que ces trois chineurs vont rentrer dans la vie de Léonard de Vinci, remonter 500 ans en arrière, et surtout aller taper à la porte de tous les laboratoires de recherche du monde entier pour faire expertiser et analyser ce tableau.
Pourquoi ça prend 20 ans? Moi, je me disais, bah, tiens, si je trouve une toile comme ça, je vais voir un expert et puis il me dit, c'est un Leonardo da Vinci ou pas? Non, ça ne se passe pas comme ça.
Parce que donc, les experts refusent d'attribuer directement un tableau, parce qu'après, quelquefois, si ce tableau est vendu et qu'il s'avère que c'est une copie, l'acheteur peut se retourner contre eux. Il y a eu des procès homériques comme ça. Donc, ce qu'on appelle les attributionnistes sont très précautionneux. Ils prennent beaucoup font attention avant de déclarer officiellement un tableau de peintre.
Oh bah, on avait raconté dans la curiosité en direct, on avait raconté comme c'est l'histoire d'un des plus grands faussaires qui a berné mais des générations d'experts et qui ne savaient pas qu'ils avaient en face un faux. Et là, on a les plus grands noms de la peinture. Donc, on comprend les précautions, le côté pointilleux des experts. Il y a eu quoi? Il y a eu des bagarres. Il y en a eu un qui a quand même fini par dire oui. Ce tableau, cette petite toile un peu crasseuse, c'est un Léonard de Vinci?
Le premier a été Daniel Arras, qui est un grand spécialiste de Léonard de Vinci, donc qui a dit officiellement dans la presse, voilà, ce tableau pour moi est le 19e tableau du grand maître, du plus grand savant et artiste de la Renaissance, Léonard de Vinci. Et puis il y a eu évidemment donc, beaucoup d'analyses dans les labos, infrarouge, rayon X, datation de la peinture au carbone 14, et toutes les études, les analyses montraient donc que ce tableau sortait de l'atelier de Léonard de Vinci, donc aux alentours de 1500-1510.
Donc veut dire quoi, ouais, pour les...
Ils ont gagné plein d'argent, nos compères.
Ils l'ont revendu ou...
Un tableau qui coûte 1500 francs, donc qui a été estimé entre 3 et 500 millions d'euros.
Donc voilà. Ils ont essayé de le vendre, ce tableau?
Donc, pour l'instant, non, parce qu'ils veulent qu'il y ait l'attribution officielle avant de le vendre. Ils se sont acharnés maintenant. Bon, ils ont dépensé plusieurs dizaines de millions d'euros.
De milliers.
Plusieurs dizaines de milliers d'euros.
On se paume avec les chiffres aujourd'hui.
Ouais, ça fait trop d'argent tout ça.
Les francs, les euros, ouais. etc. Bref, et donc ils attendent voilà, d'avoir l'imprimatur hein, officiel donc pour vendre ce tableau. Mais j'ai encore discuté récemment avec Guy Fada, qui est un des co-découvreurs.
Il s'appelle Fada.
Fada, ouais, il faut CCS, ça ne vende pas. Ouais. Qui se demande finalement s'ils vont.
Pardon, monsieur Fada, c'était facile.
S'ils vont le vendre,
c'est
parce
qu'ils
y sont très attachés.
Et on leur souhaite, en tout cas, parce que c'est une histoire géniale que vous racontez dans votre livre publié au Papillon Rouge Éditeur, on leur souhaite de pouvoir vendre ce Léonard de Vinci.
Il y a beaucoup de coureurs de trésors en France, Hubert Delobette.
Il y en a.
C'est une passion française, ça, d'aller chercher des trésors.
Oui, c'est une
et
passion.
Et de les trouver, surtout.
Oui, voilà, c'est évidemment, l'idéal, c'est de les trouver. On considère qu'il y a à peu près entre 10 et 30 000 chasseurs de trésors, voilà, avec ça va de la poêle à frire, en passant par certains qui ont des radars de sol très perfectionnés.
La chouette d'or.
Voilà. Ah oui, on avait raconté cette histoire aussi dans la curiosité. La France, c'est un terrain de jeu privilégié parce qu'elle a une histoire millénaire, forcément.
Exactement, vous avez raison. La France était une très longue histoire en fait, de révolutions, de conflits, d'invasions. Donc, il y a beaucoup de trésors qui ont été cachés en terre. Et il y a également beaucoup de trésors maritimes. Il faut savoir que la France est le deuxième pays au monde après les États-Unis en termes de surface maritime. Donc, avec beaucoup de kilomètres de côte, d'échiquetés où il y a eu des naufrages et donc des trésors.
Alors, il y a des découvertes terrestres, il y a des découvertes maritimes, il y a des découvertes fluviales aussi. Tiens, on va commencer à raconter cette histoire. Quatre copains passionnés d'archéologie sous-marine. Où est-ce qu'ils cherchent, tiens ? Dans un fleuve ? Lequel ?
Ils cherchent dans un fleuve, le fleuve Hérault, voilà, qui descend donc des Cévennes, qui va se jeter près d'Agde dans la Méditerranée. Et là, ils vont faire là aussi une découverte qui va faire sacrément palpiter leur cœur lorsqu'ils vont dégager cette statue. Donc ça se passe donc on est en 1964 et ils plongent donc régulièrement dans ce fleuve qui est connu pour abriter des vestiges. Et un beau matin, donc ils sont tous les quatre sur leur barque, alors que c'est des gens très simples, des pêcheurs, des viticulteurs. Ils plongent et puis d'un coup il y en a un qui remonte complètement catastrophé, disant je viens de mettre la main quelque chose sur d'étrange comme du bronze, venez vite. Alors ils descendent tous et là tous ensemble ils dégagent dans la vase avec leurs mains et ils découvrent donc le visage d'un enfant, d'un ange, une vision absolument extraordinaire.
Si votre défaut c'est la curiosité, alors vous êtes bien cet été sur RTL. Pour satisfaire votre curiosité, Sidonie Bonnec, Thomas Hugues sur RTL.
La chasse au trésor, vous vous souvenez, c'était une très bonne émission de télé, ça, tiens,
avec
Sylvain Augier, c'était sur France 3, si je me souviens bien. En tout cas, on vous raconte des histoires de trésors découverts en France dans la curiosité de l'été, grâce à notre invité Hubert Delobette, qui publie un livre sur ce thème aux éditions Le Papillon Rouge. Alors, des pièces d'or, c'est l'histoire que vous allez nous raconter maintenant. On est en 1938, en plein cœur de Paris. Rue Mouffetard. Alors c'est quoi ? C'est un ouvrier italien, c'est ça qui fait cette découverte ? Racontez-nous.
Exactement. Donc, comme vous l'avez dit, on est en 1938, au mois de mai, donc il fait chaud. Et neuf terrassiers de l'entreprise Sagère sont en train de démolir un immeuble insalubre donc, que la mairie de Paris a décidé de raser. Et l'un de ces ouvriers donc s'apprête à finir sa journée. On est donc veille de l'ascension, il est 16h45, à 17h donc ils arrêtent. Et un quart d'heure donc avant de terminer, il met un dernier coup de masse dans le mur de la maison qu'il est en train de faire tomber. Et tout d'un coup, sortant de ce mur, une espèce de saucisse en forme de toile, de fourreau de parapluie qui tombe. Alors ça l'interpelle, il appelle un de ses copains qui a un petit couteau italien, là, le Mazarin. Ils éventrent cette saucisse de toile et tout d'un coup sort de cette saucisse de toile ce qu'ils interprètent comme des médailles. Ils disent « Ah là là, des médailles ». Il y a un autre ouvrier qui arrive et dit « Mais non, ce n'est pas des médailles, ce sont des jetons, laitons ». Tiens, je vais les prendre ce soir.
J'ai le casino avec. Non.
Oui, non, mais vous avez raison. Non. Il va filer donc ses jetons de ce qu'il pense être des jetons de laiton à son fils, lequel va aller au métro, à une station de métro, et les mettre dans un appareil automatique pour récupérer des barres de chocolat.
Mais non.
Véridique. Si.
Avec quoi alors ? Parce que c'est quoi ces pièces finalement ?
Ben, elles ressemblent à des jetons à l'époque à des pièces de 20 sous. Ils s'en servent donc voilà pour récupérer des bonbons.
Mais c'était quoi ?
Alors
parce
en fait,
on le sait maintenant.
Voilà, on le sait maintenant, évidemment. Donc, ce sont des louis d'or à l'effigie de
Louis XV. Ça fait cher la barre de chocolat. Hein.
Ouais, ça fait cher la barre de chocolat. Et donc, celui qui a récupéré la monnaie a dû se régaler. Par contre, le soir, donc, Famino Mores, donc cet ouvrier italien, en revenant chez lui avec ses quelques pièces dans la poche, est un peu interloqué, il en parle à sa femme et qui lui dit « mais tu devrais aller voir le bijoutier du coin ». Il va voir le bijoutier qui lui dit « mais monsieur, vous venez de découvrir des pièces d'or ». C'est très important, il faut que vous alliez voir la gendarmerie, le commissariat. Il va au commissariat, donc il montre ses pièces et là, ça va être donc le début d'une aventure extraordinaire.
C'est-à-dire qu'ils vont retourner sur cet immeuble insalubre pour voir si quoi, il n'y en a pas d'autres, c'est ça ?
Voilà, donc dès le soir, donc, il y a bras-le-bas de combat, le commissaire avec un huissier, l'ingénieur en chef donc, chargé de l'urbanisme de Paris, avec quelques plantons, hein, quelques policiers, il retourne à l'immeuble. Et là, donc, ils ont pris avec lui donc, cet ouvrier italien, plus un de ses collègues. Et lui dit bon voilà mais écoutez il faut voir quand même s'il y a autre chose et là ils se mettent donc à taper sur le mur et donc le commissaire va ensuite quelques jours après dire dans la presse c'était une véritable fontaine d'or qui coulait des murs.
Combien de kilos ?
Il y avait donc 15 kilos d'or, 4000 pièces d'or qui coulent comme ça de ces murs. C'est le jackpot, c'est le bandit manchot qui crache ses pièces.
Cette fortune, elle était là depuis combien de temps dans ces murs ?
Elle était cachée depuis 200 ans dans ces murs. Alors ce qui est fou, c'est qu'en même temps que ces quantités de pièces, ils vont retrouver un parchemin qui va donc les lancer sur une...
Qu'est-ce qu'il dit ce parchemin ? C'est une lettre finalement, c'est ça ?
C'est ça, c'est une lettre.
Qui s'adresse à qui, aux héritiers ?
Voilà, donc c'est celui qui a caché le trésor, qui s'appelle Louis Nivelle, qui dit donc c'est un testament disant voilà, moi Louis Nivelle, nous sommes en 1756, si quelqu'un trouve ce trésor, il y est donc pour ma fille Claude Nivelle.
Mais ça veut dire que les ouvriers italiens qui ont découvert ces pièces d'or... Ils vont rien toucher, ils vont pas toucher d'argent.
Et alors, il va y avoir un bon lieu juridique, puisque, alors déjà, on arrive près de la guerre, on est en 1938, donc la Deuxième Guerre mondiale va mettre un terme à cet épisode, donc le butin va être mis à l'abri en zone libre à Montpellier, donc à la Banque de France. Donc, une fois la guerre finie, des généalogistes vont se lancer à la recherche des héritiers et vont en retrouver 83.
Ah, 83, qu'est-ce qu'on
donc,
fait
15 kilos d'or divisé par 83.
Oui, c'est quoi l'idée ? C'est qu'on répartit ?
Oui, on va répartir, mais ce qui est fou en plus, c'est que ces héritiers sont des gens richissimes. C'est-à-dire, on trouve que des ambassadeurs, des avocats qui ont
pignon sur rue. Donc, il n'y aura pas d'histoire alors ?
Et on trouve même le gouverneur de la Banque de France qui fait partie des héritiers.
Ah, c'est très drôle.
Mais bien sûr, ils vont être très généreux,
ils vont tout laisser aux ouvriers italiens, bien sûr.
Voilà. Donc,
évidemment, non, ça ne s'est pas passé comme ça.
Non, ça ne s'est pas passé comme ça. Et 10 ans après, le tribunal de Paris rend le verdict. Donc, sur ces 4000 pièces, il y en a 2/3 qui vont donc, aux héritiers. Le dernier tiers, il est partagé à moitié entre la ville de Paris et quand même ces braves ouvriers italiens.
Ah, qui ont quand même récupéré une partie de ce trésor de la rue Mouffetard. Magnifique histoire, Hubert Delobette, à découvrir dans votre livre. Histoire des plus incroyables trésors français, c'est publié au Papillon Rouge, éditeur.
Je
avec une très...
un mur chez moi, là.
Oui, alors choisissez bien un pas de mur porteur, parce que ça peut créer quelques soucis. Allez, merci encore, Hubert Delobette.
Merci beaucoup, Hubert. À bientôt, au micro de la curiosité. C'est la fin de votre émission.
Bah, c'est chouette, on va pouvoir partir au week-end, quand même.
C'est la fin de bien. Cette première semaine aussi. Du mois d'août. On les compte, on les savoure, avec vous, on sera là lundi dès 15h, comme tout l'été, avec au programme.
Mon petit loulou, le club des péteurs, oui, on n'est pas à l'abri de se marrer. Et puis l'aventure d'un Français, chauffeur de taxi à New York.
Quelle folie, allez, bon après-midi à vous, bon week-end et à lundi. Dans un instant, on s'échauffe pour les grosses têtes.